Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Comment diagnostiquer quand le déni barre la route? C'est l'un des enjeux majeurs de la lutte contre la maladie d'Alzheimer qui touche 1 million de personnes en France, 30 millions dans le monde. Journée de sensibilisation aujourd'hui et témoignage dans ce journal de ces malades qui s'ignorent. La diplomatie et ses humeurs. À l'ONU, Joe Biden, le président américain, prône le multiculturalisme, vante ses alliances, sans référence explicite à l'affaire des sous-marins. Emmanuel Macron, lui, passe son tour et se fait représenter. C'est rare et le contexte n'y est évidemment pas étranger. Dans ce journal encore, le grand projet de transformation de la gare du Nord à Paris a du plomb dans l'aile. Trop de surcoûts, trop de retard. Les salaires des fonctionnaires en bas de l'échelle vont augmenter pour qu'ils ne se retrouvent pas sous le niveau du SMIC. Et puis une blessure au genou pour Lionel Messi. Fâché de sortir trop tôt du terrain ce week-end, la nouvelle recrue du PSG ne jouera pas du tout demain face à Metz. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, 20 ans après AZF, vos témoignages, vos questions autour des risques industriels. Nous avons heureusement progressé depuis AZF. Il y a des dispositifs de prévention, de réduction des risques, mais il reste que beaucoup à faire, notamment pour mieux informer, pour que l'accès à l'information soit meilleur. Vous qui vivez peut-être à proximité d'une usine classée Seveso, que savez-vous de ce qu'elle contient? Que savez-vous de ce que vous pouvez demander aussi? 01 45 24 7000 pour venir jusqu'à nous.
France Inter. Ils sont 600 à découvrir chaque jour en France qu'ils sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Un cas diagnostiqué toutes les 3 minutes. C'est aujourd'hui une journée de sensibilisation mondiale à cette maladie qui se répand à mesure que l'espérance de vie augmente. La recherche avance elle aussi et c'est une bonne nouvelle. Des médicaments permettent de freiner le développement des symptômes. Encore faut-il les déceler le plus tôt possible, s'en rendre compte ou ne pas être dans le déni, ce qui est le cas pourtant de nombreux malades et même de leurs proches, Marine Clette.
Ce déni, Joël l'a vécu, éprouvé même. Il y a 20 ans, son père tombe malade, s'ensuivent de longs mois de silence, de négation. À la maison, on ne parle pas de la maladie.
Un jour, il m'a dit « Tu peux me passer le truc qui sert à écrire ?» Et je lui ai répondu « Le stylo ?» Il m'a dit « Si tu veux. » Et là, vous vous dites « Ah non, ah non, 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 c'est pas ça. » Parce que vous y pensez, vous avez entendu parler. Vous n'acceptez pas.
Ces situations de déni sont le quotidien de Judith Mollard. Elle est psychologue et membre de l'association France Alzheimer.
La personne ne va pas avoir la même perception parce qu'elle, elle oublie qu'elle oublie. Donc la personne n'a pas non plus une représentation tout à fait complète de ses difficultés.
Le déni est notamment alimenté par le fait que la maladie évolue progressivement, comme l'explique Philippe Amouyel, le directeur de la Fondation Alzheimer.
Ce que l'on sait, c'est que cette maladie commence probablement 10, 20, 30 ans avant de voir apparaître les premiers symptômes. Ce qui est plus difficile, c'est de convaincre quelqu'un qui commence à avoir des troubles de mémoire, parce que généralement, on trouve toujours une bonne raison d'avoir oublié quelque chose, parce que oublier, c'est très angoissant. Donc on se dit, ben voilà, j'étais fatigué, puis j'étais pas en forme, et puis j'ai pas fait attention.
En France, il existe des consultations mémoire. Ce sont des consultations spécialisées dans la détection de la maladie d'Alzheimer. Elles peuvent être pratiquées chez le médecin traitant.
Marine Clette, France Bleu Paris, et les outils pour le diagnostic, ça met il y a aussi la recherche des biomarqueurs de la maladie qui se fait aujourd'hui via une ponction lombaire devrait bientôt pouvoir se faire à travers une simple prise de sang. La maladie touche plus d'un million de personnes en France, je le disais, 3 millions si l'on compte les aidants, les proches dont la vie bascule elle aussi.
C'est une absence, Hélène, si rare qu'elle interroge.
Alors que s'est ouverte cet après-midi l'Assemblée générale de l'ONU à New York, en pleine crise diplomatique pour la France, Emmanuel Macron a donc choisi de se faire représenter. Un discours à distance était initialement prévu, mais c'est finalement le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui parlera pour la France. Pas aujourd'hui donc, il n'est pas chef d'État, il y a un ordre protocolaire, mais samedi. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir Hélène.
Une telle absence, hein, Bertrand, est rarissime. Est-ce que c'est à cause des sous-marins australiens?
Alors, la décision d'Emmanuel Macron de rester à Paris pendant l'Assemblée générale des Nations unies était prise depuis longtemps. Celle de ne pas intervenir en vidéo a été révélée en fin de semaine dernière, en pleine crise diplomatique avec les États-Unis, après la rupture du contrat des sous-marins australiens. C'est donc Jean-Yves Le Drian qui représente la France à l'ONU dans ce contexte tendu. Seul l'entretien téléphonique annoncé pour les prochains jours entre Emmanuel Macron et Joe Biden permettra à chacun de clarifier sa position dans une affaire qui embarrasse davantage la France que les États-Unis, l'Australie ou la Grande-Bretagne, le président français a choisi d'attendre le résultat de ce rendez-vous, quitte à se priver de la tribune des Nations Unies. Une absence que l'Élysée invite à ne pas surinterpréter, en invoquant la crise sanitaire et en soulignant que les prises de parole des chefs d'État ou de gouvernement ne sont pas des obligations à l'Assemblée générale. Pour autant, la France ne reste pas immobile. Elle a obtenu hier un soutien des Européens, qui est un succès assez formel. Et surtout, Paris travaille intensément à renforcer ses alliances dans la zone Indo-Pacifique, comme l'illustre l'entretien ce matin entre Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi.
Bertrand Galichet, un moment de diplomatie délicat donc pour Emmanuel Macron. Marine Le Pen, la candidate d'extrême droite, réclame des explications, dénonce le silence du chef de l'État. Nicolas Sarkozy, lui, interrogé en pleine dédicace cet après-midi, plutôt en soutien du chef de l'État. Agir comme cela, ce n'est pas admissible, dit-il, en référence à l'annulation du contrat. Il faudra en tirer les conséquences, a ajouté l'ancien président de la République. La colère française ne s'est donc pas encore entendue à la tribune de l'ONU. Joe Biden, en revanche, a pris la parole. Le président américain a tenté de défendre son attachement à la diplomatie, au multilatéralisme, sans référence explicite à l'affaire des sous-marins. Sébastien Paour, bonsoir, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. C'est vous qui avez suivi ce discours, Sébastien. Joe Biden veut ouvrir une nouvelle ère.
Oui, l'ère de la diplomatie permanente après celle des guerres incessantes. Il ne cite pas la Chine, mais il assure d'emblée dans son discours que la guerre froide est terminée, que le temps d'un monde divisé en blocs aussi.
Les États-Unis sont prêts à travailler avec toutes les nations qui s'engagent et qui cherchent une solution pacifique pour relever les défis, même si nous avons des désaccords dans d'autres domaines.
Il explique que l'Amérique a refermé la page de sa guerre la plus longue, l'Afghanistan, que la force est désormais un dernier ressort et donc qu'il veut ouvrir la page de la diplomatie avec tous ses alliés, même si on lui a reproché un manque de concertation sur l'Afghanistan. Et il n'a pas cité la France, il ne fait pas référence à la crise des sous-marins.
Et Joe Biden insiste ensuite sur les deux autres combats du moment, Sébastien.
D'abord la pandémie et la promesse de nouveaux efforts financiers qui seront annoncés cette semaine.
Des avions transportant des vaccins venus des États-Unis se sont déjà posés dans 100 pays. Ils apportent les doses de l'espoir.
Il reprend l'expression qu'une infirmière américaine, dit-il, a utilisée avec lui. L'autre défi, c'est celui sans frontières, ce sont ces mots, du réchauffement climatique.
Les phénomènes météo extrêmes qu'on a vus partout dans le monde et qu'on a tous ressentis représentent ce que le secrétaire général appelle justement une alerte rouge pour l'humanité.
Biden veut mettre sur la table 11 milliards de dollars par an pour la lutte contre le réchauffement climatique dans les pays les moins avancés en la matière. Et puis on retiendra enfin que sur le conflit au Proche-Orient, il estime que la solution à deux États est la meilleure et qu'il est prêt à revenir complètement dans l'accord sur le nucléaire iranien si Téhéran fait pareil.
Sébastien Paour en direct de Washington. Vous évoquiez l'Afghanistan, Sébastien, où les talibans ont désormais nommé tous les membres de leur gouvernement et il n'y a toujours aucune femme. Trois ONG, dont Amnesty International, publient aujourd'hui un rapport sur la situation depuis la chute de Kaboul le 15 août. Intimidation des femmes, représailles contre les fonctionnaires de l'ancien gouvernement, atteinte à la liberté d'expression. Des dizaines de témoignages directs ont été recueillis attestant ces violations de droit.
Il est 19h08 sur France Inter. Hélène, le salaire des fonctionnaires va augmenter.
Ceux qui sont au plus bas de la grille, qui gagnent le moins, ils vont toucher 37 euros de plus en octobre. Laurent Kramer, c'est la conséquence directe de l'augmentation du SMIC.
Sans cette mesure immédiate, 200 à 300 000 fonctionnaires de catégorie C auraient gagné moins que le salaire minimum qui vient d'augmenter dans le secteur privé. Cette accélération pour rattraper les bas salaires dans la fonction publique est saluée par Mylène Jacob à la CFDT.
Une mesure positive, sans hésitation. Mais, paradoxalement, cette mesure de justice vient aussi souligner les conséquences de 10 années de gel de la valeur du point d'indice. Donc, oui, il y a un travail de fond à faire sur l'ensemble des grilles et des carrières de la fonction publique.
Même remarque à la CGT Fonction publique. À force de traîner, le gouvernement a été lui-même dépassé par la hausse subite du SMIC dans le secteur privé, souligne Natacha Pommet à la CGT.
Cette augmentation concerne les trois premiers échelons, catégorie C, quelques 200 ou 300 000 agents. Donc cela va concerner malheureusement trop peu de personnel. Et ce que la CGT réclame depuis plus de 10 ans maintenant, c'est le dégel du point d'indice afin d'avoir une augmentation générale des salaires pour tous les fonctionnaires.
Une conférence sur les perspectives salariales des fonctionnaires s'ouvre avec les syndicats, mais ses conclusions ne sont pas attendues avant février 2022 et applicables seulement après l'élection présidentielle en 2023, relèvent les syndicats.
Laurent Kramer, dans la série des grands projets, en voici un qui visiblement ne se fera pas, celui de la transformation de la gare du Nord à Paris. C'est quasiment sûr ce soir, la gare la plus fréquentée d'Europe, 700 000 passagers par jour, 900 000 à l'horizon 2030. Il était prévu d'en rénover une bonne partie, d'y installer des dizaines de boutiques, en prévision notamment des Jeux Olympiques de 2024. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
La SNCF confirme ce soir que c'est mal engagé.
Oui, par le biais d'un communiqué, l'entreprise se dit préoccupée par un dérapage du coût provisionnel des travaux. Initialement 600 millions d'euros, on serait aujourd'hui autour plutôt du 1,5 milliard. Pas la même affaire forcément. Les regards se tournent ce soir vers le concessionnaire de l'ensemble, ainsi Citrus, la filiale immobilière du groupe Auchan, ce concessionnaire en charge de la confection des travaux et de leur financement, est-il encore en capacité de mener à bien son projet? C'est la question que pose ouvertement la SNCF dans son communiqué. En tout état de cause, les délais, semble-t-il, ne pourront être tenus pour les JO de 2024. Un point noir, là encore, qui, à défaut de ravir les promoteurs du projet, réjouit sans doute ce soir les associations qui s'y opposent depuis de longs mois, assaut de riverains notamment, inquiets de voir ce projet démesuré poussé sous leurs fenêtres. Projet sur plusieurs étages qui avait d'ailleurs été redimensionné, rapetissé, verdi il y a quelques mois pour faire passer la pilule, laquelle finalement pourrait donc même se dissoudre.
Maxime Debs pour les explications. Les algues vertes ont-elles tué dans les Côtes d'Armor les propriétaires de deux chiens décédés à la suite d'une promenade il y a quelques jours sur une plage? Réclament aujourd'hui des explications. Des analyses sont en cours. L'environnement et cet autre sujet ô combien sensible, le glyphosate. Alors que l'Europe doit décider d'ici décembre la réautorisation ou non de l'herbicide à la fin de l'année 2022, l'ONG Génération Future affirme que les industriels font le tri dans les études sur la toxicité du produit qu'ils transmettent aux États pour qu'ils se prononcent et qu'ils en mettent même une bonne partie sous le tapis, Célia Kiré.
Plus de la moitié des études scientifiques et universitaires sur la toxicité du glyphosate ont été écartées du dossier, selon l'ONG. Génération Future a passé au peigne fin le dossier fourni par les industriels, puis l'a comparé aux études publiées depuis 10 ans. François Vaillerette pointe la responsabilité des industriels.
Ça veut dire que les industriels, ils ont choisi sur des critères qui sont assez obscurs, sans aucun contrôle des agences sanitaires, de ne pas simplement inclure tout un tas d'études qui devraient normalement être soumises à l'homologation, ce qu'elles ne seront pas, parce qu'elles ont été écartées a priori.
Et en effet, selon un règlement de 2009, les industriels sont censés fournir l'ensemble des études scientifiques disponibles et publier les 10 années précédentes dans leur dossier de demande d'autorisation. Ils doivent donc revoir leur copie, selon François Vaillerette.
C'est complètement anormal. Nous, ce qu'on demande, c'est que l'Europe refuse ce dossier, soit renonce à homologuer le glyphosate une fois pour toutes, tout de suite, soit demande dans un délai express un complément d'information. Il n'y a pas 36 alternatives. Soit le dossier est complété immédiatement, soit le dossier doit être rejeté par l'Union européenne.
Or, le temps presse, la France, la Hongrie, les Pays-Bas et la Suède doivent donner leur feu vert ou non à la réautorisation du glyphosate d'ici la fin de l'année. Contactée, l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments, précise bien qu'une consultation publique va être ouverte dès la fin de cette semaine sur le sujet. Elle invite les ONG à apporter leur contribution.
Des centaines et des centaines de mails à peine lancés ce matin. La plateforme téléphonique mise en place pour recueillir la parole de victimes d'inceste a été débordée. Preuve qu'il y a un besoin social de très grande ampleur pour le co-président de la commission indépendante sur l'inceste.
Allez, nous partons pour l'Allemagne, où à quelques jours des élections législatives, le meurtre d'un pompiste secoue le pays.
Un étudiant qui travaillait dans une station-service à l'ouest de l'Allemagne a été abattu par un client qui refusait de porter le masque anti-Covid. L'émoi est grand, d'autant plus dans un pays où les anti-restrictions sanitaires se font de plus en plus entendre. Nathalie Versieux est à Berlin.
L'affaire remonte à samedi. L'employé d'une station essence, un étudiant de 20 ans, refuse d'encaisser le pack de bière d'un client ne portant pas de masque. L'homme âgé de 49 ans quitte les lieux avant d'y revenir une heure et demie plus tard, cette fois-ci armé. Il sort un revolver de sa poche et tire. Le caissier meurt sur le coup. Le suspect, entre-temps arrêté, dit s'être senti acculé par les mesures anti-Covid, y voit une atteinte à ses droits. Ce fait divers suscite en Allemagne inquiétude et indignation. En pleine campagne électorale, les commentaires atterrés des candidats se multiplient. La verte Annalena Baerbock se dit choquée. Le social-démocrate Olaf Scholz dénonce la haine, tandis que le chef des services de renseignement de Thuringe en ex-RDA s'inquiète d'une plus grande disposition à recourir à la violence chez des personnes jugées pacifiques jusqu'à la crise sanitaire. Berlin, Nathalie Versieux pour France Inter.
En France, il est question d'aller certaines restrictions dans les semaines à venir. Le périmètre du pass sanitaire pourrait se réduire là où le virus circule moins. Il en sera question au Conseil de défense sanitaire demain matin. Un projet de loi est tout de même en préparation pour prolonger l'utilisation de cet outil au-delà du 15 novembre. Et puisqu'on parle de pass sanitaire, celui d'Emmanuel Macron a fuité. L'Élysée pointe la négligence ou la malveillance de plusieurs professionnels de santé. L'assurance maladie a saisi le Conseil national de l'Ordre des médecins, c'est à lire sur franceinter.fr. Et puis c'est un grand soulagement pour les 600 habitants de l'Île-aux-Moine dans le Morbihan. Le médecin réticent à la vaccination avait fermé ses portes la semaine dernière à l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale. Elle a depuis changé d'avis. Le maire de la commune, Philippe Le Bérigaud, respire.
Elle m'avait annoncé qu'elle avait besoin d'un temps de réflexion sur les questions qu'en professionnel de santé elle se posait sur le vaccin. Et elle m'a annoncé donc ce mardi matin qu'elle avait décidé de se faire vacciner mercredi, ce qui va donc lui permettre de reprendre ses activités de manière tout à fait normale à compter de jeudi, donc du 23 septembre.
Vous savez pourquoi elle a changé d'avis ?
Non, je ne sonde pas les cœurs. Quelque part, je ne comprenais pas pourquoi elle avait cet avis. Je ne comprends pas parfaitement pourquoi elle est revenue sur cet avis, mais ce qui m'importe, c'est que la population de l'Île-aux-Moines puisse avoir en permanence un médecin 24 heures sur 24. Nous sommes une île. C'est une sécurité pour la population permanente que de savoir que le cabinet sera ouvert et ça me va très bien.
Le maire de l'Île-aux-Moines avec Fanny Borel de France Bleu Armorique. Un parcours mémoriel officiellement inauguré et beaucoup d'émotions quand à 10h17 ce matin, les sirènes ont retenti à Toulouse, 20 ans après l'explosion meurtrière de l'usine AZF. Des commémorations et des questions que vous pouvez poser juste après ce journal dans le téléphone sonne. Déjà un contretemps pour le trio Messi, Neymar, Mbappé. Le trio magique sera séparé demain pour la 7e journée de Ligue 1 de foot. Lionel Messi, blessé au genou ce week-end, a dû déclarer forfait. Vincent Pellegrini.
L'image a fait le tour de la planète football. Dimanche, à un quart d'heure de la fin de PSG-Lyon, Mauricio Pochettino décide de remplacer Lionel Messi. Ce que n'a visiblement pas apprécié la star argentine, dont le visage traduisait sa désapprobation. En fait, quelques minutes auparavant, Lionel Messi avait pris un coup sur le genou gauche. Dans son communiqué aujourd'hui, le PSG précise que l'Argentin souffre d'une contusion et qu'un nouveau point sur l'évolution de sa blessure sera effectué dans 48 heures. L'absence de Messi demain sur la pelouse de la lanterne rouge du championnat ne devrait pas être trop handicapante pour le leader de la Ligue 1, mais si elle devait se prolonger, ce serait bien plus préjudiciable. Après la réception de Montpellier samedi, le PSG affrontera Manchester City mardi prochain en Ligue des Champions, un match capital après le décevant match nul concédé à Bruges il y a une semaine.
Et un trio Messi, Neymar, Mbappé qui n'a que 125 minutes de vie commune. Bah oui, ils ont compté. Et puis cette histoire de couple qui embarrasse le Goncourt. C'était les révélations de France Inter ce matin. L'un des 16 écrivains sélectionnés n'est autre que le compagnon de l'une des jurées, la romancière Camille Laurence. Les membres du jury le savaient et sont passés outre. Ce qui nous intéresse, c'est l'œuvre et elle seule, juge le président, se défendant de tout conflit d'intérêts. La prochaine réunion, le 5 octobre prochain, risque tout de même d'être un peu épicée. C'est un article à retrouver sur franceinter.fr.
Qu'on ira chercher avec plaisir. Hélène Philippe, merci beaucoup.